Radio Prague, les informations.
Accord de Bruxelles, pas de décision de Prague avant la rédaction finale. Le ministère des Finances et la Banque Centrale Tchèque recommandent au gouvernement de ne pas fixer de date d'adoption de l'euro. Et puis en tennis, Petra Kvitova a été désignée championne du monde 2011 par la Fédération Internationale. D'après le Premier ministre tchèque Petr Nečas, c'est le gouvernement qui doit trancher sur la question du renflouement du FMI et des pays les plus endettés de la zone euro et non la Banque Centrale Tchèque. Pour sa part, il s'est dit opposé à la participation de son pays. Le gouvernement doit discuter du problème ce mercredi, même s'il n'est pas certain que la question soit soumise au vote des députés. Monsieur Nečas s'est dit conscient que la position tchèque compliquait la situation, mais a souligné qu'il ne fournirait pour l'heure aucune décision ferme, car selon lui, aucune condition claire d'accord entre les dirigeants de l'UE n'a été donnée. Notre position est claire, ne pas s'engager à signer l'accord tant que ces paramètres ne sont pas connus. Ils n'ont été connus ni jeudi ni vendredi et ne le sont pas aujourd'hui. Il faut attendre la rédaction finale de l'accord, a déclaré M. Nečas devant la presse. Et puis le ministère des Finances et la Banque Centrale Tchèque recommandent au gouvernement de ne pas fixer pour l'heure de date d'adoption de l'euro. Ces deux institutions recommandent également de ne pas essayer de rentrer dans le mécanisme de taux de change européen MCE2 courant 2012 au vu de la conjoncture peu favorable d'une adoption de l'euro à l'heure actuelle. Tel est le fond du dossier préparé par le ministère des Finances, censé évaluer l'état des critères de convergence de Maastricht et le niveau de convergence économique de la République tchèque avec la zone euro. Il doit être débattu ce mercredi par le gouvernement. La République tchèque s'est engagée à faire en sorte d'être le plus tôt possible préparée à adopter la monnaie unique. Toutefois, le choix d'une date d'adoption n'est pas dans la compétence d'un État membre, mais dépend de son degré de préparation. Le parti Top 09 a choisi la députée Alena Hanakova au poste de ministre de la Culture. Madame Hanakova est membre du Parti des Maires et des Indépendants, qui est associé au parti Top 09, membre de la coalition. Un groupe d'artistes avait tenté de promouvoir la candidature du recteur de l'Académie des Arts de Prague, Ivo Maté, mais celui-ci n'a pas trouvé de terrain d'accord avec le chef du parti Top 09, Karel Schwarzenberg, le ministre de la Culture sortant. Jiří Besser a remis sa démission au chef de l'État ce mardi après-midi, qu'il a accepté. Accusé d'entretenir des relations avec un homme d'affaires condamné pour corruption, Jiří Besser avait reconnu avoir omis de faire état de ses parts dans une société basée aux États-Unis et de l'existence d'une propriété en Floride d'une valeur de $230 000. Un mot de sport, Petra Kvitova a été désignée championne du monde 2011 par la Fédération internationale de tennis. La Tchèque, vainqueur de Wimbledon, des Masters féminins et de la Fed Cup, a été préférée à la numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki, qui n'a pas disputé de finale majeure cette saison. Le dernier joueur tchèque à recevoir pareille distinction a été Ivan Lendl, primé pour la quatrième et dernière fois en 1990. Cette saison a tout simplement été un rêve, a confié la Tchèque de 21 ans, également désignée joueuse de l'année par la WTA. On finit par un mot de météo. Mercredi, nous fêterons les Lédéi en République tchèque. Le ciel sera nuageux à couvert et il pleuvra par endroits. Un temps toujours maussade, donc les températures maximales resteront assez douces pour la saison, entre 3 et 7 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figurent d'abord deux grands thèmes, réticents à l'idée d'octroyer un prêt au Fonds monétaire international pour que celui-ci en retour puisse aider la zone euro. Le gouvernement tchèque hésite sur la décision qu'il doit prendre, se joindre aux autres et aider les pays de la zone euro lourdement endettés et en crise, ou bien refuser et prendre le risque de s'isoler. Tel est le dilemme auquel est confronté le gouvernement. Plus de précisions dans quelques instants. Nous évoquons ensuite l'évolution démographique de la République tchèque. Le nombre d'habitants a certes augmenté, mais les démographes ne sont pas satisfaits pour autant. Et puis la seconde partie de notre programme sera consacrée à la rubrique du jour dans le panorama entretien avec la réalisatrice tchèque Viera Kaïs, à l'origine de la sortie sur les écrans français d'Une trop bruyante solitude, un film adapté du roman éponyme de l'écrivain tchèque Bohumil Hrabal, avec dans le rôle principal l'acteur français Philippe Noiret. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. « Que va donc faire la République tchèque? Réticent face au plan de l'Union européenne de renflouer le Fonds monétaire international afin que celui-ci ait les moyens de secourir la zone euro, le gouvernement tchèque va-t-il finalement apporter sa contribution? Tandis que le ministre des Affaires étrangères s'est déclaré en faveur d'un prêt tchèque, le Premier ministre Petr Nečas, encore indécis, rencontrait lui ce mardi le président de la République, un Václav Klaus fermement opposé à l'idée de toute aide tchèque.
Česká republika se nesmí a nemůže izolovat v Evropě.
Et le ministre des Affaires étrangères, Karl Schwarzenberg, a été le premier membre d'un gouvernement divisé dimanche à se prononcer clairement et publiquement en faveur d'une contribution tchèque au plan de sauvetage de la zone euro. La Banque centrale tchèque devrait renflouer le FMI à hauteur de 90 milliards de couronnes, soit environ 3,5 milliards d'euros, une somme qui représente un peu plus de 10% de ses réserves en devises. Lundi, le chef de l'État a défendu une position diamétralement opposée. Václav Klaus a expliqué pourquoi à la radio.
La République tchèque elle-même vit avec un déficit qu'elle n'est pas capable, comme nous pouvons le constater, de résorber. Dans cette situation, il serait irresponsable d'aggraver notre endettement en accordant un prêt pour des pays extrêmement endettés, auxquels cela permettra seulement de repousser encore un peu plus l'adoption et l'application des mesures réellement nécessaires. Le devoir élémentaire du gouvernement est de maintenir les finances publiques et le montant de la dette publique à un certain niveau. C'est pourquoi le gouvernement augmente les impôts. C'est pourquoi il procède à des coupes budgétaires qui ont de lourdes retombées pour les Tchèques, et notamment pour ceux socialement plus faibles.
Le ministre des Finances estime lui aussi qu'une participation tchèque au renflouement du FMI est une décision risquée et désavantageuse pour les intérêts nationaux. Toutefois, Miroslav Kalousek est bien conscient que la République tchèque pourrait se permettre d'adopter une position négative à la condition qu'elle ne soit pas l'unique pays en Europe avec la Grande-Bretagne à dire non. Dans le cas contraire, Miroslav Kalousek est plutôt favorable à un rattachement à la cause commune, même si la décision finale ne lui appartient pas, comme il l'a précisé.
Même si nous décidions d'accorder un prêt au FMI, je souhaiterais que nous soyons capables de négocier le versement d'une somme inférieure à 3,5 milliards d'euros. C'est une discussion vraiment très importante qui dépend des priorités de la politique étrangère du gouvernement. Bien entendu, la Banque centrale a aussi son mot à dire, car il s'agit de ses réserves en devises. Le gouvernement ne commande pas la Banque centrale, c'est une décision qui est uniquement de son ressort.
Réticente comme son ministre des Finances, la République tchèque s'interroge donc. Là où certains appellent à faire preuve de pragmatisme, de peur de voir le pays s'isoler, le président de la République, Václav Klaus, considère comme souvent en matière de questions européennes les choses un peu différemment. On l'écoute.
Je suis convaincu que notre gouvernement prendra la décision la plus raisonnable. Mais c'est une décision que nous devons prendre seuls. Limiter à l'avance notre libre arbitre avec l'argument selon lequel nous nous retrouverons isolés si nous n'acceptons pas le plan de Bruxelles est une erreur. Agiter le spectre de l'isolation est une chose à laquelle nous sommes habitués ces dernières années. Et le résultat est que nous nous retrouvons aujourd'hui confrontés à un problème européen difficilement résolvable.
Malgré le fait que tout le monde s'accorde pour convenir que la zone euro, dont la République tchèque ne fait pas partie, se trouve effectivement dans une situation épineuse, pour l'heure toutefois, au sein du gouvernement, seul le chef de la diplomatie, Karl Schwarzenberg, n'envisage pas de voir Prague rester à l'écart de ses partenaires européens.
En aucun cas, nous ne devrions rester isolés en Europe, uniquement aux côtés de la Grande-Bretagne. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays situé au centre de l'Europe. Tous nos voisins sont des États membres de l'UE. Choisir une voie différente de celle des autres reviendrait à nous isoler et pourrait être très dangereux pour nous.
Mardi, en début d'après-midi, le Premier ministre a fait savoir que la décision serait prise prochainement par le gouvernement et qu'il n'entendait pas faire porter la responsabilité à la Banque centrale. Petr Nečas a également précisé que personnellement, il était plutôt opposé à une aide de la République tchèque. Le dernier rapport démographique de l'Office national de la statistique montre que le nombre d'habitants en République tchèque a augmenté depuis le début de cette année avec 15 800 habitants supplémentaires. Fin septembre, 10 548 000 personnes vivaient donc dans le pays. Ce chiffre positif ne semble cependant pas satisfaire les démographes qui préparent les prévisions de l'évolution démographique de la population tchèque jusqu'à la fin du XXe siècle. Plus de précisions avec Václav Richter.
83 300 enfants sont nés en République tchèque au cours des 9 premiers mois de cette année, ce qui est de 5 700 de moins par rapport à la même période de l'année dernière. Il y a eu cependant aussi moins de morts. De janvier à septembre, 78 400 personnes sont décédées, ce qui représente 1100 décès de moins qu'en 2010. La différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès qui indique la natalité naturelle d'une population n'atteint donc que 4 900 et nous devons 2/3 de l'augmentation du nombre d'habitants aux immigrés. Ils ont été 11 200 à venir notamment de Slovaquie, d'Ukraine et de Russie pour s'établir en République tchèque. La fécondité en République tchèque a légèrement diminué, tandis que dans les années 2009 et 2010, l'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre de naissances par femme en âge de procréer, atteignait encore 1,49. Cette année, il ne dépasse pas 1,44. Et ce n'est pas un bon présage pour l'évolution démographique de la population tchèque. Selon la plus pessimiste des trois variantes de la prévision démographique présentée ces jours-ci par Pavel Fiala de l'École supérieure d'économie de Prague, au cours du XIXe siècle, la population tchèque pourrait même diminuer de la moitié.
C'est une mise en garde qui se propose de démontrer que notre natalité est tellement faible que si elle n'augmente pas, le nombre d'habitants en République tchèque diminuerait de moitié. Et encore, parmi les 6,5 millions d'habitants que la Tchéquie risque d'avoir vers la fin du siècle, il y aurait 1 million d'étrangers qui se seraient établis, comme nous le supposons dans notre pays. J'avoue avoir été moi-même surpris par ce résultat, mais si pendant tout un siècle il n'y a que 1,4 naissances par femme en moyenne au lieu de 2,1, ce qui serait souhaitable, cela finira par avoir cette conséquence.
D'après Pavel Fiala, il est très difficile de prévoir l'afflux d'immigrés qui pourrait améliorer le bilan démographique de la République tchèque. Il constate cependant qu'en général, lorsque le taux de fécondité dans un pays est en baisse, le nombre d'immigrés augmente souvent rien que pour combler la lacune sur le marché du travail. Par contre, le démographe ne voit pas une catégorie d'âge des femmes qui pourrait à l'avenir renverser la tendance négative et assurer le renouvellement des générations.
En ce qui concerne la forte catégorie d'âge des années 70, ces femmes sont aujourd'hui presque quadragénaires et ont donc dépassé le sommet de leur fécondité. Il n'y aura pas d'autre catégorie d'âge de grande natalité, parce que le baby boom survenu il y a quelques années n'a été que de courte durée et le taux de natalité n'a pas même dépassé celui de l'année 93. Son effet ne pourrait donc se manifester que par une stagnation. Pendant un certain temps, le nombre de femmes en âge de procréer ne diminuera pas.
Et Pavel Fiala de constater que la seule possibilité d'améliorer vraiment la situation démographique du pays serait donc une augmentation du nombre d'enfants par femme, augmentation de l'indice de fécondité.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite de notre programme, qui sera consacré au cinéma. Il y a tout juste un mois, en effet, c'est-à-dire mi-novembre 2011, est sorti sur les écrans français Une trop bruyante solitude, un film adapté du roman éponyme de l'écrivain tchèque Bohumil Hrabal, avec dans le rôle principal l'acteur français Philippe Noiret. Le film n'est pourtant pas une nouveauté en République tchèque, puisqu'il est sorti en 1994 et il est déjà disponible depuis plusieurs années en DVD. Alors pourquoi ce décalage? Cela fait en réalité, bientôt 20 ans que la réalisatrice d'origine tchèque, Věra Kajs, exilée en France depuis 1967, se battait pour récupérer, côté français, les droits de son film, qui était par ailleurs la première coproduction franco-tchèque de l'après-1989. Un combat de toute une vie, comme Věra Kajs le raconte au micro d'un clairvoyant.
Panorama.
Pas.
No.
Ra.
Ma.
C'est une très longue histoire parce que moi j'avais lu le livre en 1980 et ce texte m'a traversé. Je l'ai lu dans un wagon la nuit. J'allais de Francfort à Rome, j'habitais à Rome à l'époque. Et j'ai lu cette nouvelle, elle m'a traversé comme une sorte d'épée. Elle m'a chauffé l'âme, je trouvais ça tellement extraordinaire. Et quand j'ai fermé le livre, je savais que je ferais un film. J'avais une certitude. Certains gens, quand je racontais cela, prenaient ça de l'arrogance. Mais c'était pas, je n'avais pas d'opinion autre de moi-même. Je savais que je ferais de ce texte un film. J'ai attendu, je sais pas, 13 ans pour avoir les droits. Après, nous avons tourné le film. Et puis, malheureusement, le producteur français, déjà, nous devions tourner pendant, il me semble, 9 semaines. On a tourné beaucoup moins. Puis, le film était enlevé au montage. Beaucoup de scènes que nous avons tournées n'ont pas été montées. Il a rapatrié le film à Paris. Nous avons fait une version tchèque parce qu'on avait promis à Bohumil Hrabal, on voulait lui faire cadeau pour son anniversaire. Donc, mon producteur m'avait dit, faisons une version provisoire pour que Bohumil Hrabal puisse le voir. On avait peur qu'il se soucie de ce qu'il avait fait d'ailleurs plus tard, mais il en parlait constamment. Donc j'avais accepté un sort de compromis, faire une version, et il m'avait dit toujours, je vais trouver de l'argent, on va finir le montage et tout ça. Et puis j'ai appris un jour que le film passait à la télévision. Donc je téléphonais à Canal+, en disant comment ça se fait, que le film passe à la télévision. Il n'a pas eu la première, et ils me disent, oui, il a eu une première il y a un an, dans un petit cinéma à Versailles. J'étais pas invité, Philippe Noiret n'était pas invité. Donc on ne sait pas si c'était une sorte de, comment je peux dire, combine financière. Ou je n'ai pas compris pourquoi le producteur n'a pas essayé de distribuer le film. J'avais demandé, j'ai essayé de comprendre la situation. Il refusait tous les contacts avec moi. Et puis, la Société des auteurs dramatiques m'a payé l'avocat. Et j'ai récupéré les droits de film en 2003. Droit intellectuel sur le film, mais le producteur ne m'a pas rendu ni les négatifs, ni rien. Donc j'avais droit de vendre, d'utiliser le film, de le distribuer, mais je n'avais pas le film. Et donc les producteurs tchèques ont perdu beaucoup d'argent à cause de la... Je pense qu'ils n'ont pas été payés par le producteur français, entièrement ou totalement, je ne sais pas dans quelle proportion. Ils étaient très nobles parce qu'ils m'ont... donner des négatifs, mais il me manquait la voix de Noiret. Noiret, entre-temps, est décédé. Et par pur hasard, on a retrouvé une petite cassette où il y avait le mixage, pas tout à fait celui-ci, la version originale. Enfin, donc, si vous voulez, il a fallu une patience et un boulot détective pour le reconstituer. Malheureusement, les chutes de négatifs étaient détruites. Donc, voilà, ce film avait une vie vraiment... difficile.
D'accord, ben justement, on va repartir un peu au début de l'histoire de ce film. Vous avez dit que vous avez attendu 13 ans pour avoir les droits d'auteur. Quel était un peu le parcours? Comment vous n'avez pas une formation de cinéaste, a priori. Comment, à partir du moment où on se dit, on lit un livre, on se dit c'est génial, je veux faire un livre, comment vous avez réussi à mobiliser une équipe, à mobiliser de l'argent, à trouver un acteur, et pas le moindre, puisque c'est Philippe Noiret, etc.
Donc, d'abord, j'avais fait une école de cinéma, hein, une petite école de cinéma en France. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Mais bon, comme la langue française n'est pas ma langue maternelle. Et puis, c'est vrai, j'ai eu une vie, je ne dis pas difficile, parce que j'avais une vie que j'avais choisie librement. Mais j'avais fait beaucoup de petits boulots, donc mon grand problème, c'était souvent de survivre. Comment payer le loyer, comment manger, etc. Donc, où j'étais peut-être pas assez modeste pour écrire, faire tout pour écrire. Enfin bon, donc j'ai vécu d'une manière un petit peu en dents de scie, comme ça, la période faste et moins faste. Et puis j'avais fait une école de cinéma, un peu par hasard, parce que j'étais mariée avec un garçon qui voulait faire une école de cinéma, et il l'a pas fait, donc moi pour le pousser, j'ai essayé de faire le concours, j'ai obtenu une bourse, et j'ai fait une école de cinéma de 2 ans. C'était une école qui n'avait pas beaucoup d'argent, donc il y a un scénario qui était choisi pour tourner, 2 scénarios je crois, qui étaient choisis pour tourner le court-métrage. Et donc les miennes, donc j'ai réalisé un court-métrage et je voulais faire un film un peu comique, et c'était un tragique total. Donc je me suis dit, je ne suis pas douée pour la réalisation, et puis j'abandonnais l'idée. Et j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de choses, la production, l'organisation, le casting, même les costumes, les décors, accessoiristes, la documentaliste, c'était passionnant. Donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu comment les films se font, j'ai organisé le tournage de longs métrages en Italie, en Afrique, je suis allé en Inde dans les archives, enfin bon, j'ai vécu quand même beaucoup d'années de mon travail dans le cinéma. Et puis quand en 80 j'ai lu le livre, je savais que je ferais le film comme réalisateur, je ne sais pas pourquoi.
Vous avez contacté directement Bohumil Hrabal
ou... Bohumil Hrabal, je lui avais écrit. J'ai lu le livre, je suis arrivée à Rome et j'ai commencé à le traduire en français pour moi. J'ai mis un an. Puis après, j'ai commencé à écrire un scénario. Le premier scénario était en noir et blanc, très philosophique, avec beaucoup de citations, un peu de grands philosophes. Un peu, je crois, prétentieux comme scénario. Et puis j'ai écrit une deuxième version, une troisième version, et j'écrivais à Bohumil Hrabal en lui disant que j'aimerais bien adapter une trop brillante solitude, et je ne recevais pas de réponse. Et en 1986, c'est la première fois que j'ai pu rentrer en République tchèque au bout de 19 ans d'exil, j'ai pu rentrer en République tchèque. Et à l'époque, je travaillais avec un cinéaste suédois qui faisait des films publicitaires surtout, mais des très beaux films. C'était une star aux États-Unis, en Allemagne, mais pas typiquement publicitaire, très poétique, très particulier. Je travaillais beaucoup avec lui, je faisais tout, organiser les films, les costumes, les castings, enfin c'était passionnant, j'ai beaucoup appris avec lui, et esthétiquement et au niveau de rigueur du travail. Et à un moment, j'en pouvais plus parce qu'on arrêtait, c'était une star et il voulait que je m'occupe de tout. Donc il me donnait les dessins, le storyboard de film, et puis moi j'amenais, j'organisais le tournage toute seule, c'était vraiment, j'en pouvais plus. Et donc j'ai dit, je vais arrêter, il faut que je m'occupe d'une trop brillante solitude. Et puis j'ai arrêté de travailler avec lui, et puis je n'avais plus d'argent. Et puis il m'a proposé en juillet 87, me disant, écoute, je vais travailler à Munich. J'ai fait 3 films pour la télévision allemande, 3 courts films. Est-ce que tu pourrais pas venir faire le décor en Allemagne? Et moi, je dis, je parle pas allemand. Il me dit, ça fait rien, on te donnera une assistante. Enfin, il voulait absolument que je travaille avec lui. Et moi, je me suis dit, ma mère habite à 300 km de Munich. Je pourrais aller les week-ends quand on travaille pas en République tchèque. Donc, j'ai accepté. Et j'ai téléphoné à ma mère en disant si elle pouvait trouver quelqu'un qui porterait une lettre à Bohumil Hrabal dans ses mains, que je voudrais vraiment, dans ma tête, je me disais maintenant il faut que je me lance, il faut que je combats pour une troublante solitude. Et ma mère me dit, c'est étrange, alors je devais travailler de 1er au 21 juillet en Allemagne. Et ma mère m'a dit, c'est étrange, le Bohumil Hrabal sera à Františkovy Lázně de 1er au 21 juillet.
Donc c'était le destin, on va dire.
Voilà, et donc je l'ai rencontré, et c'était très amusant. J'avais très peur de lui, parce qu'il était très particulier, très adorable, mais il était un peu, on dit plachy, en tchèque, c'est pas tout à fait timide, un peu sauvage, à premier abord. Donc quelquefois il agressait par une sorte de timidité, et quand vous le connaissiez, l'être le plus généré, adorable, vraiment cultivé, formidable. Et donc je l'ai rencontré, je lui ai dit, je voudrais bien adopter une trop brillante solitude. Il me dit, oui, tout le monde voudrait adopter une trop brillante solitude, pour qui tu te prends? Moi, je dis je me prends pour personne, mais j'ai une certitude intérieure que c'est moi qui le ferai parce que j'ai l'impression que, comme si ça m'a été dicté. Je me dis, Heidegger, dictat de Dieu, pareil, moi, ça m'était dicté aussi. Tu m'intéresses. Et il me dit, tiens, je vais te faire des tarots. Il me fait des tarots et il me dit, écoute, tu feras le film, il sera beau, mais les droits, je ne peux pas te les donner, je les ai vendus. Alors j'ai appris, il y avait plusieurs réalisateurs avant moi qui ont eu les droits.
Et Menzel aussi
ou... Et Menzel, il a eu, à la fin, il y avait le István Szabó. Après, il y avait, je ne sais plus, il y en avait plusieurs. Il y avait Evel Chorm, le grand réalisateur tchèque. Et quand Chorm est décédé, Hrabal m'a fait savoir que les droits sont libres. Donc je suis arrivé à Prague tout de suite. Et j'ai dit à Hrabal, qu'est-ce qu'on fait? On signe quelque chose. Ah, je signe rien, tu te débrouilles, tu vas voir mon agent. Donc je vais voir son agent. Et ils me disent, mais monsieur Hrabal se trompe, c'est pas lui qui a des droits, c'est Barrandov. Parce qu'Eval Chor ne les avait pas en tant que personne, mais en tant que Barrandov. Et Barrandov a commandé le film à Jiří Menzel. Et donc je suis allé voir Jiří Menzel et je lui dis, vous ne ferez pas le film. Il me dit, vous ne m'aimez pas. Je dis, non, c'est pas ça, j'ai une certitude intérieure. Tout le monde me prenait pour une folle. Et puis je dis, vous allez voir, vous ferez autre chose. Et c'était vrai. À un moment, lui, il a abandonné l'idée de faire le film. Et il m'a beaucoup aidé. Il était extrêmement noble parce que il a demandé en France, avant ses recettes, pour son soldat Chongqing. Et moi, en même temps, j'ai présenté le scénario à l'avance ses recettes pour une trouvée en solitude. Alors, la commission, je ne connaissais personne, je ne suis pas du tout, je suis très marginal, je ne suis pas introduit dans le milieu cinéma. Je travaille toujours un petit peu, pas dans le grand cinéma, ce qu'on dit. Et donc les gens de la commission disaient qu'ils aiment beaucoup mon scénario, mais qu'ils ne sont pas sûrs si je serais capable de réaliser un tel film. Et Menzel, j'ai appris ça après, il avait dit, je la connais, je pense qu'elle peut le faire.
Voilà, c'est donc avec la réalisatrice et tchèque Věra Kajíc que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague. Ahoy.